Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui nous allons parler vie du quotidien, mais nous allons également parler nouvelles. C'est un genre qu'on n'aborde pas souvent dans les caprices de lecture et même qu'on n'aborde pas souvent en littérature. Et je suis donc ravie de recevoir aujourd'hui Gérald Tenenbaum. Bonjour Gérald.
Bonjour Sarah.
Pour votre dernier écrit, alors je ne vais pas dire roman, votre dernier écrit qui s'intitule « Les rues parallèles » aux éditions Cohen et Cohen et qui est fraîchement sorti puisqu'il est sorti le 2 octobre.
Tout à fait.
Merci Gérald d'avoir accepté cette invitation. Alors comme d'habitude, vous allez avoir quelques questions. Je vais venir vous chercher pas que derrière ce que vous avez écrit, mais je vais aussi aller chercher l'homme derrière l'écrivain. Et on va commencer tout de suite, Gérald. Alors après avoir lu Les rues parallèles, donc recueil de nouvelles, me voilà fort surprise parce que moi j'attendais un roman. Vous m'aviez habitué au roman.
C'est vrai, oui.
Et là, on switch un petit peu, on fait un pas de côté. Vous sortez peut-être vous aussi de votre zone de confort en passant à ce registre-là.
Alors, pas tout à fait. En fait, je dirais plus que j'y reviens parce que, bon, j'ai commencé l'écriture, à l'adolescence, c'était de la poésie.
Oui.
Ensuite, j'ai commencé à écrire des nouvelles.
Parce
que c'est plus, enfin, disons que, bon, c'est plus, je veux pas dire plus facile, mais écrire des nouvelles, ça demandait moins de maîtriser une intrigue complexe, beaucoup de personnages, etc.
Okay.
Donc j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et puis ensuite, je me suis mis au roman.
Ouais.
Et je me suis toujours dit qu'un jour je reviendrai aux nouvelles. Et en fait, en revenant aux nouvelles pour ce recueil, j'ai retrouvé non seulement le plaisir des premières nouvelles, mais aussi le plaisir de la poésie.
Ok, donc vous revenez à vos premières amours.
Oui, c'est ça, d'une certaine façon.
Et du coup, après avoir gagné en maturité, je dirais, parce que la vie est faite pour qu'on, pour qu'on gagne en maturité aussi, est-ce que cet exercice de nouvelles, est-ce qu'il ne vous a pas paru peut-être plus complexe, justement, parce que voilà, vous avez plein de choses à nous expliquer et à nous décrire. Et pourtant, voilà, dans ce changement, moi, je vous trouvais super confort dans le roman.
Oui.
Et je me suis dit, mais pourquoi il veut changer comme ça tout d'un coup ? Donc, j'ai une partie de réponse.
Oui, c'est, alors bon, c'est aussi les circonstances, parce qu'on m'avait commandé, au fil des années, on m'avait commandé quelques nouvelles.
D'accord.
J'avais déjà un stock de quelques nouvelles et je me suis dit, c'est peut-être le moment. J'ai eu envie de compléter le stock et d'écrire un recueil.
Super.
Tout en filant, un thème qui va parcourir en fait toutes les nouvelles. Donc j'avais envie que ça soit un recueil avec des contextes particuliers, des contextes qui sont très différents les uns des autres.
Mais avec un fil d'Ariane.
Mais tout de même avec un fil d'Ariane. Voilà.
Ok. Oui. Alors justement, la nouvelle, c'est un écrit qui est... Alors, c'est une forme plus courte de l'écrit, plus dense, mais qui doit quand même, nous, lecteurs, nous tenir un petit peu en apnée ou en suspense, parce qu'on n'a pas 300 pages pour décrire une situation, une intrigue, c'est ce que vous disiez. Et voilà, vous venez nous chercher derrière un sentiment, une rencontre et un regard. Les nouvelles sont assez surprenantes, les unes après les autres. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que c'est votre vision du monde que vous nous partagez ? Ou est-ce que c'est la vision de Gérald Tenenbaum du monde qui nous entoure ? Ou une vision que vous proposez, qui n'a aucun lien avec vous ?
Oui, je parlerai... Bon, bien sûr, enfin, il serait illusoire de dire que ça n'a aucun lien avec moi, mais je parlerai plus de sentiment du monde plutôt que de vision du monde.
Oui.
C'est-à-dire, il n'y a pas de message, mais il y a une émotion que j'ai envie de partager avec le lecteur. C'est vrai que la nouvelle, c'est un genre beaucoup plus technique que le roman, finalement.
Je trouve un peu trop oublié.
Oui, c'est vrai.
Alors, dans le monde littéraire.
En France. Parce que,
oui, en France.
Parce que aux États-Unis, en Angleterre, même en Allemagne, la nouvelle est très prisée.
C'est comme si c'était un espèce de sous-genre en France.
Et oui.
C'est dommage.
Oui. En France, le roman, c'est le grand genre et on a l'impression qu'il n'y a que ça.
Oui, exact.
À cause des romans du 19e.
Et même quand on va en librairie, on ne trouve pas les nouvelles ou elles sont confondues dans les romans.
Oui, c'est ça. Oui.
Et c'est chouette que vous lui redonniez un petit peu quand même, c'est vraies couleurs. Parce que la nouvelle, ce qui est super intéressant dans un recueil de nouvelles, quelqu'un qui n'est pas forcément passionné par lire des grands romans de 600 pages peut lire une nouvelle et puis une autre. Il y a aussi quand même un plaisir de découverte sans ordre chronologique.
On peut lire une nouvelle, reposer le livre, reprendre une nouvelle une semaine après. Ouais. On n'a pas besoin de se souvenir de ce qui s'est passé avant. Alors que dans un roman, si on commence à lire un roman et si on le pose pendant quelques temps, à un moment donné, on va se dire, on est obligé de revenir en arrière.
Voilà, parce que, on a oublié tel détail.
Je ne sais plus qui est qui, je ne sais plus qui fait quoi, etc. Donc, mais la nouvelle, elle rend compte de la fulgurance des émotions, c'est quelque chose de... Et du point de vue formel, la brièveté de l'émotion se reflète dans la brièveté du récit.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est très particulier.
C'est bref, mais extrêmement intense. Oui, moi, c'est comme ça que je vis une nouvelle, quand j'en lis une. En fait, c'est chouette, parce que ça pourrait être presque... souvent, les romans policiers nous tiennent quand même en haleine. On veut savoir. Quelqu'un qui est un petit peu... Alors, un auteur de romans policiers assez chevronné va être assez malin pour terminer un chapitre sur une note de suspense où on ne peut pas
bien
le lâcher.
Sûr, oui, c'est comme les séries.
Voilà, c'est exactement comme les séries. Chaque épisode se termine de façon à ce qu'on devienne complètement addict. Et en fait, la nouvelle, pas du tout. Mais pendant, 15 pages, on n'est que là.
On n'est que là, et quand on termine, ça ouvre sur une rêverie, sur une réflexion, sur une émotion qui va durer pendant quelques temps après la lecture. Donc c'est complètement différent de ce qui se passe avec un roman policier, par exemple.
Et la nouvelle a donc, alors je prêche évidemment, mais la nouvelle a autant sa place que le roman.
Bien sûr.
On va faire une première coupure musicale, Gérald, avec un morceau de votre choix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà nous donner le titre et puis pourquoi ce choix ?
Alors, il s'agit d'une chanson de Charles Trenet sur un poème de Verlaine, très connu, Les Sanglots Longs.
D'accord.
Cette chanson a une histoire, puisqu'elle est sortie en 1941, et il se trouve qu'une des nouvelles qui s'appelle Bureau de nuit a trait à l'année 1941. Et puis, bien sûr, ce poème a été utilisé par la Résistance, par Radio Londres, pour diffuser des informations. Donc, c'est une plongée dans l'histoire et en même temps, c'est une très belle interprétation de Charles Trenet.
Très bien. Eh bien, on revient juste après Les Sanglots Longs pour la deuxième partie d'émission.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Thank you. paisible rumeur là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil.
Caprice de lecture sur Fadjet.
De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Gérald Tenenbaum pour son dernier ouvrage, Les rues parallèles, qui n'est pas un roman, je tiens à le préciser, mais un recueil de très belles nouvelles. Alors justement, Gérald, j'ai relevé deux citations, deux passages que vous avez écrits, qui, moi, m'ont un peu bousculé parce que m'ont fait réfléchir. Le premier, c'est « Le souvenir d'un sentiment est-il aussi un sentiment ?» Alors, ça m'interpelle. Ou « Les lieux ont une personnalité propre ». Ça aussi, ça me laisse sans voix. « Le souvenir d'un sentiment est-il un sentiment ?» Figurez-vous que je ne m'étais jamais posé cette question. Est-ce qu'on se souvient d'un sentiment ? Mais ce souvenir est-il un nouveau sentiment ?
C'est ça, voilà. Est-ce que l'émotion, par nature, c'est fugace ? Et est-ce qu'on peut revivre une émotion ? Est-ce qu'on peut revivre un sentiment en ayant de nouveau une émotion ?
Voilà.
Et voilà, c'est une question qui m'a... Enfin, bon, qui est arrivé comme ça quand j'ai écrit cette nouvelle.
Mais on pourrait en parler des heures.
Oui, bien sûr. Ça pourrait
même être un sujet de philo au bac, je pense.
Oui, c'est vrai. C'est une nouvelle.
Il y a tellement de choses à dire.
C'est une nouvelle qui se passe. Il y a un petit argument. On est dans l'avenir, mais en fait, on va revenir dans un passé relativement lointain. Mmh. Et puis, dans ce passé, il y a un personnage, qui est Giacomo Casanova, et qui va caché dans un endroit où on n'entend que sa voix, va chanter quelque chose et va réveiller un sentiment vis-à-vis d'une jeune femme qu'il a connue précédemment. Et donc, c'est cette idée que le souvenir pouvait véhiculer une deuxième émotion qui est en écho de la première.
Voilà, et ça, c'est incroyable. Est-ce que l'écho est aussi fort que, que le sentiment primaire ? Et le deuxième, la deuxième citation, c'est « Les lieux ont une personnalité propre ». Alors ça, c'est pareil, parce que quand on se souvient d'un lieu ou quand on retourne sur un lieu qui nous a touché ou gagné pour plein de raisons, est-ce qu'on se demande si ce lieu a une personnalité ? Jamais je me suis posé cette question, jamais. Je sais juste ce que ça m'a évoqué. Mais est-ce qu'un lieu a une personnalité propre ?
Oui, c'est cette idée de l'influence de la nature et des lieux et des choses sur les êtres que nous sommes, comme si tout était susceptible de vibrer. En exergue du livre, j'ai mis une citation de Charles Baudelaire qui dit « La nature dite inanimée participe de la nature des êtres vivants et comme eux, frissonne d'un frisson surnaturel et galvanique. » Et c'est cette idée que, en fait, la vie, c'est un phénomène global. Oui. Et on est tous liés, les choses, les êtres humains, les animaux, l'air qu'on respire, tout ça participe de quelque chose de global.
Et c'est chouette que vous en parliez, parce que j'ai l'impression que notre société actuelle a tendance à l'oublier.
Bien sûr.
Et c'est bien dommage.
Oui. Et l'être humain, c'est toujours pensé comme étant hors de la nature.
Alors et qu'en fait, non.
En fait, non, bien sûr que non.
On en fait partie.
Et donc, c'est cette... j'ai écrit un autre livre qui s'appelait Les Harmoniques, où c'est pareil, qui est un roman choral, où les destins de plusieurs personnages finissaient par se croiser pour créer une sorte de musique. Et ça, c'est un petit peu ça fait un peu partie de mon projet littéraire, de rendre compte de cette musique silencieuse, cette musique en sourdine qui relie les êtres les uns aux autres.
Et c'est chouette, c'est bien de le rappeler, en plus.
Oui.
Alors justement, à travers toutes ces nouvelles, vous prenez le lecteur par la main et vous l'emmenez en balade. Je me suis promenée, vous m'avez emmenée par la main, et puis on a été se promener dans différents endroits, à différents moments, pour ressentir ou évoquer différentes choses. Est-ce que ça vous tenait à cœur de nous, d'emmener votre lecteur par la main ?
Oui, de le prendre par la main et puis de l'inviter à une déambulation à travers des lieux très différents. Il y a le métro parisien, la ville de Prague, le delta du Nil, la ville de Syracuse, la ville de New York avec le métro aérien, un village de Silésie et puis finalement le paradis et l'enfer. Tout y passe et j'avais envie de prendre le lecteur et de lui faire ressentir finalement ce que moi-même je ressens en écrivant, parce que l'écriture me fait prendre conscience de mes propres émotions.
Il y a quand même un petit peu de Gerald Tennenbaum dans le roman.
Bien sûr.
Dans le recueil de nouvelles, on retrouve un petit peu.
On dit le style, c'est l'homme même, bien
vrai.
Sûr. Bien sûr que, je veux dire, on apporte dans un livre. Enfin, je veux dire,
il y a forcément une part de nous.
Ben, bien sûr, oui. Une part de nous, bien sûr. Enfin, il y a la technique, etc. Mais on apporte ce qu'on est. Enfin, je veux dire, on peut pas tricher. On peut tricher pendant 4 ou 5 pages. On peut pas tricher pendant 200 pages, bien sûr.
Oui. Je suis d'accord. Gérald, avant de passer à la prochaine coupure musicale et aux caprices de lecture, pouvez-vous un petit peu nous dire ce qu'il en est de vos projets littéraires ? Est-ce que vous avez des rencontres ou des dédicaces prévues là, d'ici à la fin de l'année ? Voilà, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ?
Dans quelques jours, je suis invité à la librairie Le Livre Écarlate à Paris, oui. Voilà, qui est le 29, le 29 octobre. Et puis, il y a aussi le salon de Saint-Max, okay. Auquel je vais
aller. Oui, c'est fin novembre, généralement.
C'est fin novembre, c'est ça. Hein, c'est fin novembre.
Ok, donc on peut vous retrouver là aussi.
Oui, bien sûr, on pourra me retrouver.
Ok, est-ce que vous faites des rencontres, dédicaces en librairie ou ce genre de choses, ou
écoutez,
c'est pas encore prévu ?
Pour l'instant, rien n'est prévu, mais bon, je suis disponible et très heureux, okay. De le faire, bien entendu.
Sur vos projets littéraires, est-ce qu'il y a un petit truc en cours ? Alors, celui-là vient de sortir.
Oui, bien sûr.
Frais, mais.
Alors, il y a un roman en cours, et en même temps, j'ai de plus en plus envie de continuer à écrire des nouvelles.
Ah.
Alors, bon, mais je pense que je vais faire les deux, certainement.
Ouais.
Mais en tout cas, il y a un projet de roman dont le synopsis, est complètement écrit. Et une partie de la documentation est faite. Et c'est pour moi souvent le plus difficile et le plus long dans la préparation d'un livre.
Ça vous prend combien de temps, une préparation, à peu près ?
C'est très variable.
C'est variable.
J'avais écrit un livre qui s'appelait L'affinité des traces, qui se passait dans le grand sud algérien, oui. Dans le désert, chez les Touaregs. Ça m'a pris 18 mois avant d'écrire la première ligne. Parce que bon, j'ai découvert la culture touareg et je le connaissais pas du tout, et donc j'ai acheté des livres de poésie touareg, j'ai retrouvé des films documentaires.
Vous avez dû vous imprégner de la culture.
Je me suis imprégné complètement de cette culture, et bon, ça m'a pris 18 mois. Bon, ça c'était le maximum.
Ouais.
Autrement, bah, disons que, enfin, c'est toujours en moi que ça se compte.
Okay. Où l'idée arrive,
voilà,
et le moment où elle est parfaitement concrétisée sur le papier, c'est en
ça,
moi, de toute façon.
Oui, de toute façon, c'est en moi.
Pas comment on peut faire moins.
Oui, bien sûr. Oui.
Ok. Alors, on va faire une deuxième et dernière coupure musicale, toujours de votre choix, Gérald. Pouvez-vous nous dire...
L'Adagio d'Albinoni,
oui.
Un des morceaux de musique les plus célèbres au monde, dont la genèse est un peu mystérieuse. Et donc, il y a un mystère, puisque l'Adagio d'Albinoni n'a pas été écrit par Albinoni, mais a été composé par un compositeur italien qui s'appelle Remo Giazzotto.
Ok.
Et lui, était spécialiste d'Albinoni et l'a attribué a attribué la ligne musicale principale à Albinoni. Mais tous les musicologues ne sont pas d'accord. Donc il y a une nouvelle dans ce recueil qui hasarde une explication.
Très bien. Alors on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour votre caprice de lecture.
Thank you.
caprices de lecture sur Fadjet.
Troisième et dernière partie d'émission de Caprices de lecture, toujours en présence de Gérald Tenenbaum, qui a écrit donc Les rues parallèles, recueil de nouvelles, qui est sorti le 2 octobre. Gérald, la parole est à vous pour votre caprice de lecture.
Merci Sarah. Écoutez, le caprice de lecture, bon, ayant écrit ces nouvelles, j'ai eu envie de me replonger dans les grandes nouvelles de la littérature. Donc j'ai repris Edgar Poe, j'ai repris Borges, j'ai repris les nouvelles de Raymond Carver, qui est vraiment un maître dans le domaine. Et puis je me suis mis à relire les nouvelles et les courts romans de Stefan Zweig, qui sont... Stefan Zweig est vraiment un écrivain de la passion, il explore la passion humaine jusque dans ses recoins les plus intimes. Okay. et pas toujours, enfin je veux dire, il va très loin. Et j'ai envie de parler d'une de ses nouvelles ou courts romans qui s'appelle Amok ou le fou de Malaisie, où il explore la passion du désir. Donc, et c'est quelqu'un, c'est un homme, et puis en même temps, il évoque le problème de l'avortement. Alors, entre 1920 et 1930,
c'était effectivement un vrai problème, et l'évoquer encore pire.
C'était très osé de sa part. Enfin, il allait très loin, et c'est l'histoire d'un médecin qui reçoit une femme, une grande bourgeoise, qui vient pour un avortement. Et puis il veut pas le faire, enfin oui, en tout cas il l'oblige à s'humilier, et puis il imagine cette femme avec son amant, et il devient fou de désir pour elle, absolument fou. Et puis bon, il faut lire le texte pour aller jusqu'au bout, mais c'est quelque chose, enfin c'est une exploration du désir charnel qui est absolument époustouflante.
D'accord, donc ça c'est bon à savoir, Stefan Zweig, et oui. Le titre, pardon ?
Amok ou le fou de Malaisie.
Amok ou le fou de Malaisie. Gérald, merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci
à caprice de lecture.
Merci Sarah.
C'est un vrai bonheur, comme d'habitude, de parler de vos ouvrages, et celui-là, il va aller vous chercher les rues parallèles où vous ne l'attendez pas. On se donne rendez-vous pour de nouveaux caprices de lecture. À bientôt, au revoir.
Au revoir.